Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Inclusion Inc., un balado sur les initiatives des entreprises pour favoriser un milieu de travail inclusif qui fait la belle part à la diversité. Inc. comme inclusion, Inc. comme incorporé qui réfère aux entreprises ou organisations, qu'elles soient à but lucratif ou à vocation sociale, les entreprises ont un rôle fondamental à jouer comme milieu d'accueil. Et la diversité, bien entendu, elle prend diverses formes, dont celle de la neurodiversité. Pour cet épisode du balado Inclusion Inc., nous causerons d'une application innovante, mon employé autiste, auquel a collaboré notre invité. Alors, je vous présente Marc Lenovaz, qui est chercheur au Centre de recherche, et là, il va m'expliquer l'acronyme IUSMM, et professeur titulaire responsable des études de premier cycle à l'Université de Montréal. Bonjour, Marc.
Bonjour, mais merci beaucoup pour l'invitation.
Merci d'être avec nous. Donc, qu'est-ce que l'Institut universitaire?
C'est l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc, c'est un institut qui offre des services aux personnes aux prises avec des troubles de santé mentale, qui est situé au fond sur les anciens terrains de l'hôpital Louis H. La Fontaine.
Ah, d'accord. Donc, ce que je comprends, vous êtes présent en de multiples champs d'intervention et large.
Oui, ou dans mon cas, moi, c'est principalement l'autisme et la déficience intellectuelle, mais dans l'Institut, on a toutes sortes d'experts. On a des experts en santé mentale, on a dépression, anxiété, psychose. Donc, on a vraiment quand même une grande variété de chercheurs. Donc, c'est un institut universitaire parce qu'il y a un centre de recherche qui est associé, puis c'est là que moi, j'ai fait de la recherche notamment.
Okay. Et qu'est-ce qui vous a amené à ces spécialités?
En fait, quand j'étais jeune, je voulais travailler avec des enfants. Puis, pour payer mes études...
Donc, vous étiez enfant, vous vouliez travailler avec des...
peut-être quand j'avais 20 ans, ou peut-être pas 20 ans, peut-être un petit peu plus jeune, mais je cherchais un emploi pour payer mes études universitaires.
Oui.
Puis, je voulais travailler avec des enfants, puis j'ai trouvé un emploi pour travailler avec des personnes autistes, des enfants autistes, en fait. Mm-hmm. Puis, depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté.
Ah, d'accord. Donc, ça vous a amené vraiment à développer une grande spécialité dans le domaine.
Oui, c'est ça. Je pensais pas à ça quand j'étais arrivé à ma première journée de travail. Mais finalement, au fil du temps, j'ai beaucoup apprécié. J'ai adoré l'interaction, le contact avec ces personnes-là. Puis, j'ai décidé d'en faire une carrière.
Oui, bien, une carrière et plusieurs outils, dont, entre autres, une application, mon employé autiste. Comment ça a généré l'idée de faire une application?
On a travaillé avec la Fondation Autistes et Majeurs qui finance le projet. Puis, ils nous avaient dit qu'ils cherchaient des projets pour favoriser l'emploi des personnes autistes. Puis, un des enjeux majeurs, c'est le maintien en emploi. C'est-à-dire que quand ils se trouvent un emploi, des fois, ils vont le perdre parce que des mécompréhensions entre le gestionnaire puis la personne autiste, qui sont juste des non-dits,
ouais.
Puis qui peuvent venir à une perte d'emploi qui aurait peut-être duré si le gestionnaire avait eu plus d'informations. Donc, on a décidé de s'attaquer sur le volet gestionnaire pour vraiment mieux informer les gestionnaires puis pour leur donner le plus d'informations possible pour minimiser ces compréhensions-là.
Ou ces incompréhensions.
Oui, c'est ça, ces incompréhensions-là. Puis aussi pour leur donner de l'information, même s'il n'y a pas d'incompréhension, ça peut faciliter l'intégration à long terme s'ils ont d'informations exactes. Puis s'ils savent où aller chercher de l'aide aussi, tu sais, ça va pas bien. Il y a des endroits où on peut aller chercher de l'aide aussi, puis l'application peut nous aider avec ça également.
Oui. Mais j'imagine du côté du recrutement aussi. Ah, ben, quoique c'est pas écrit dans notre front, hein, l'autisme. Donc, si quelqu'un postule à un emploi, la personne n'a pas nécessairement dévoilé qu'elle appartient à une neurodiversité.
Non, absolument. Donc, c'est sûr que le plus d'informations qu'on a, le mieux ça nous permet de soutenir l'ensemble des personnes parce qu'il y a plusieurs pratiques. Il y a un des modules qui se conseille des façons d'intervenir avec son employé. Mm-hmm. Puis honnêtement, c'est des meilleures pratiques pour intervenir avec n'importe quel employé. Là, ça ne se limite pas juste à l'autisme. Fait que si on peut ouvrir l'esprit un peu des gens, hein, leur donner des bonnes stratégies, on espère que ça peut les aider à se faire embaucher, mais surtout, puis comme je dis, l'objectif principal, à garder leur emploi.
Oui, parce que c'est triste quand on a enfin réussi à trouver un emploi. Non seulement on a une perte de revenus, mais on a une perte au niveau de notre fierté. Ça reste pas facile là, de perdre un emploi.
Absolument. Je veux dire, c'est pas facile pour personne, qu'on soit autiste ou pas. Exact. Ça vient chercher notre estime de soi. Ça a plein d'impacts au-delà des impacts financiers. Puis je pense que si on veut favoriser la participation sociale, on veut minimiser ces situations-là.
Mm-hmm. On va parler tout à l'heure en détail des 5 modules, ce qui nous permettra peut-être de creuser les réactions et comment des fois on n'arrive pas à bien comprendre. Donc, vous allez pouvoir un peu nous éclairer sur tout ça. Mais je voulais voir si vous avez eu, dans le cadre de votre carrière, à réaliser d'autres types de projets en lien avec l'autisme.
Oui, on en a fait beaucoup. Ouais. Je pense qu'un de nos plus gros succès était il y a un an ou deux. On a lancé une application dans la peau d'une personne autiste. C'est de la réalité virtuelle.
D'accord. La réalité virtuelle, ouais, comment ça se passe?
Tu mets le casque, puis là, on essaie de simuler l'autisme. Évidemment, on ne peut jamais simuler parfaitement n'importe quelle condition. Mm. On exagère des symptômes que nous rapportent les personnes autistes pendant qu'ils portent le casque. Puis on visait vraiment à sensibiliser la population générale à l'autisme. Puis on a eu des beaux succès à ce niveau-là.
Dans quel contexte les gens pouvaient essayer ce casque de réalité virtuelle?
Mais nous, on le conseille pour les employeurs qui embauchent des personnes autistes, par exemple, sensibiliser le reste de leur personnel. Ça a été aussi utilisé, une bonne utilisation, c'est à l'USMM. On est allé rencontrer le personnel de cuisine. Ce n'est pas nécessairement des experts en santé mentale. T'sais, c'est des gens qui travaillent en cuisine, mais ils côtoient ces gens-là à chaque jour. Mm-hmm. Donc, on est allé pour leur faire essayer l'application, pour les sensibiliser aux différences. Donc, on veut vraiment sensibiliser les employés qui côtoient d'autres personnes autistes, ceux qui travaillent auprès des personnes autistes aussi, puis les futurs professionnels. Donc, tu es dans les programmes de formation, notamment. Là.
Mm-hmm. Et là, expliquez-moi, là, je mets le casque sur mes yeux, là, qu'est-ce qui se passe?
Mais on est à un étage, un peu comme un bureau ici, en fait. On arrive à un certain étage d'un immeuble, puis là, on doit trouver le bureau de notre dentiste. Mm-hmm. Mais nous, on simule une certaine surcharge sensorielle qui rend la tâche quasi impossible à faire.
Par surcharge sensorielle, on parle de quoi?
Beaucoup de lumière, beaucoup de bruit.
Que vous rajoutez.
Qu'on a rajouté, oui. On a flouté le tableau avec les numéros de bureau. Fait qu'au fond, la tâche n'est pas vraiment possible à faire. Fait que t'as pas compris ce qui se passe. Mm. Fait qu'il faut que tu essaies des portes au hasard. Puis quand tu essaies une porte puis tu ouvres la mauvaise, tu te fais chicaner.
OK.
Donc, ça fait que les gens... Ça va chercher beaucoup le côté émotionnel des gens, le côté affectif.
Ouais.
Puis on nous rapporte souvent que c'est ça qui leur fait réaliser à quel point, oui, c'est une tâche qui peut peut-être sembler facile pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes qui sont neurodivergentes, c'est difficile, puis il ne faut pas nécessairement les juger ou les critiquer parce qu'ils ne font pas la bonne chose. Peut-être qu'ils n'ont juste pas compris ou qu'il y avait trop d'informations, puis qu'ils n'ont pas pu se concentrer sur ce qu'ils faisaient, là.
Oui, parce que c'est sûr que l'autisme est un spectre, on le dira jamais assez, là. Ça prend toutes sortes de couleurs, de formes, je sais que vous vous occupez de déficience intellectuelle aussi, mais on n'est pas dans la déficience intellectuelle.
Pas dans ce cas de ces applications-là, pas dans le cas de mon employé autiste. Peut-être pour être utilisé avec des gens qui ont une déficience intellectuelle, ce qu'on dirait légère. Mm-hmm. Mais c'est sûr que ce n'est pas conçu pour des personnes qui auraient des difficultés plus importantes, là, ou besoin de davantage de soutien.
Okay. Donc, pouvez-vous peut-être un peu nous brosser un portrait, là, quand on parle du spectre de l'autisme, ça va de quoi à quoi?
Bon, ça, c'est vraiment un spectre, hein? Ça va d'une personne qui ne parle pas, qui ne comprend pas quand on lui parle, puis qui ne fait que des comportements répétitifs, donc qui va faire des bruits de bouche particuliers, comme « ah, ah, ah », puis qui va peut-être agiter les doigts ou faire toujours des mouvements répétitifs, qui ont besoin de beaucoup de soutien, qui ne peuvent pas vivre seuls, qui ont besoin de supervision 24 heures sur 24, jusqu'à des gens qui travaillent à l'université, puis qui sont professeurs, puis qui ont une intelligence par-dessus la moyenne. Mais eux, leur particularité, c'est principalement qu'ils ont discuté au niveau des interactions sociales, de la communication sociale, puis aussi au niveau peut-être des comportements qu'on pourrait appeler de différents, où les gens utilisent le mot atypique, je ne sais pas pour le mot atypique, mais je veux dire, c'est des comportements qu'on ne voit pas chez les gens habituellement, puis qui peuvent faire réagir quelqu'un qui n'a peut-être pas l'habitude.
Quel genre de comportement?
Mais ça peut être des comportements moteurs, comme vous disiez, des mouvements répétitifs. Ça peut aussi être certaines rigidités, donc vouloir toujours faire des choses de la même façon. Une adhérence à un certain rituel, donc quand c'est l'heure du lunch, la personne mange toujours la même chose. Exactement. Quand elle met sa boîte à lunch sur la table, elle sort chaque chose dans le même ordre, puis elle les consomme dans le même ordre. Donc, il peut avoir l'air différent là, pour quelqu'un qui a pas l'habitude.
Mais est-ce que c'est pas est-ce qu'on peut pas avoir l'impression que ça peut être de la psychorigidité aussi?
C'est vraiment, nous on appelle ça des rituels.
Ouais.
Et donc ça ressemble un peu à des rigidités. Évidemment, je pense qu'une caractéristique, quand on dit rigide, ce qu'on veut principalement dire, c'est qu'il y a un manque de flexibilité ou il y a une répétition qui peut, chez certaines personnes, rapporte que ça réduit leur stress, notamment. Là. Puis, je pense que c'est quelque chose qui est important de comprendre. Si ça réduit son stress, ça fait de mal à personne. Pourquoi on s'en soucie?
Oui, mais c'est juste qu'on voit une différence dans les comportements. Donc, c'est ce qui fait qu'on se questionne parce qu'on comprend moins.
C'est ça. Puis il y en a peut-être qui vont, par bonne intention, taquiner.
Ouais.
Mais peut-être que ça peut juste faire augmenter le stress chez la personne. On va dire, oh, je vois, tu manges toujours ton... Aucune mauvaise intention, tu manges toujours ton lunch de la même façon, mais ça peut causer du stress ou de l'anxiété ou une réaction chez la personne. Là. Donc, il faut quand même, pas intervenir, mais interagir de façon adéquate et puis respectueuse avec les personnes autistes.
J'ai l'impression que le premier contact dans la culture populaire du phénomène de l'autisme, moi, j'ai l'impression, en tout cas, j'ose penser à Rain Man. J'ai l'impression au film Rain Man, Dustin Hoffman, que pour beaucoup de gens, en tout cas pour moi, c'est la première fois que j'étais sensibilisée et on voit ces tics-là qui sont doublés d'une intelligence phénoménale sur des volets spécifiques, là, comme compter, avoir une mémoire photographique aussi.
C'est pas quelque chose qui est très commun.
Okay.
C'est ça qui est un peu triste, parce que le film Rain Man indique que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Là. Moi, j'ai travaillé avec énormément d'autistes, puis c'est assez rare que j'ai vu des caractéristiques comme ça, mais ça peut arriver. Puis ça fait partie, justement, quand tantôt je parlais des comportements répétitifs, peut avoir des intérêts restreints. Donc, si tu as un intérêt très restreint, que tu adores, puis que tu passes 12 heures par jour à le faire, éventuellement, tu vas devenir quand même assez bon, mais c'est un mythe commun, là, tu sais, qu'ils sont capables de faire des mathématiques dans leur tête ou qui.
C'est la bonne personne à
emmener. Ils sont tous des ingénieurs, tu sais, c'est vraiment pas le cas. Il y a quand même une grande variance.
Bien, j'ai vu un organisme qui se spécialise dans le placement des personnes autistes, Oticon.
Oui.
C'est au niveau du développement logiciel, justement, là où on a l'impression, bon, c'est un geek qui est dans son monde, puis on a l'impression qu'il y en a plus, mais. Est-ce que c'est une perception?
Mais c'est sûr qu'il y en a plus. Il pourrait y en avoir plus dans certains emplois. Ils demandent moins d'interaction sociale.
Ouais.
Là, parce que naturellement, il y a certaines personnes autistes qui vont quand même aller vers le social. Il y en a, là, des travailleurs sociaux autistes. Mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui préfèrent des emplois qui demandent moins d'interaction, comme le génie, le génie logiciel ou la programmation. Mm. Mais même là, une anecdote, nous, l'application a été développée par Oticon. Donc, on a fait affaire avec eux. Puis, ils ont besoin de quand même d'interaction sociale parce que moi, je devais parler avec mon programmeur à toutes les semaines toutes les deux semaines pour interagir avec moi. Donc, il y a peut-être moins d'interaction que dans mon travail de psychoéducateur, c'est sûr. Mais il y a quand même de l'interaction à avoir. Là. Puis, je dois dire, j'étais excessivement satisfait du travail qui est fait pour nous, là.
Mais je me rappelle d'avoir travaillé dans une boîte en TI et il y avait une des chefs de projet qui était autiste et je trouvais qu'elle était très, très englobante avec les gens. Elle leur parlait beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai dit, j'avais l'impression que les gens autistes, c'était pas très fort dans les interactions sociales. Elle m'a dit, moi, personnellement, je m'en fous, mais elle dit, on m'a dit que comme gestionnaire, c'est ça qu'il faut que je fasse.
Oui, parfois c'est appris, c'est-à-dire que peut-être que ça ne vient pas naturellement pour les gens de faire cette interaction-là avec les autres, mais surtout avec ceux qui ont une plus grande intelligence, même avec les gens qui ont plus de difficultés, on peut leur enseigner les habiletés sociales, puis apprendre comment interagir. Il peut y avoir un petit peu plus de défis quand il y a des imprévus, quand il y a des choses qu'ils n'ont jamais vues auparavant, puis là, comment on interagit, mais je veux vraiment stresser, puis vous l'avez dit, c'est un suspect, là, fait que y en a qui ont... ont des difficultés plus minimes à certains niveaux puis des plus grosses difficultés à un autre niveau. Là.
Et un autre volet dont on parle souvent, c'est peut-être la difficulté de comprendre les expressions faciales, le non-verbal.
Oui, ça peut être difficile. Ouais. Donc, notamment dans l'application, on mentionne que c'est important d'être clair. Cela dit, on parle souvent d'autisme, mais même avec des employés typiques, il faut être clair. Là, les mésentendus ou les incompréhensions qui peuvent arriver parce que quelqu'un a été indirect. Je veux dire, ça arrive même dans les milieux de travail où il n'y a pas de personne
autiste. Ah, puis ça arrive souvent. C'est ça. Là, je pensais que tu avais dit que moi, j'avais compris plutôt telle affaire.
C'est ça. Donc, tu sais, on parle souvent d'autisme quand on fait référence à être clair, puis le non-verbal. Mais je pense qu'on mérite, avec n'importe quelle personne, de pas seulement utiliser notre non-verbal, mais aussi d'être explicite, là.
Ben, d'une certaine manière, est-ce que ça se peut que le fait, justement, que là, on est devant une personne qui a cette neurodiversité-là, puis qu'on apprend à, on va plus le dire, alors qu'on gagnerait à le faire avec tout le monde, mais quelqu'un qui est pas dans le spectre de l'autisme dira peut-être pas, je suis pas sûre que c'était clair, ou osera peut-être pas vous clarifier, alors qu'il gagnerait à le faire.
C'est ça. Puis, tu sais, moi, je soupçonne fortement, évidemment, c'est juste mon opinion personnelle, que c'est... un gestionnaire qui intègre bien une personne autiste devient un meilleur gestionnaire en général.
Oui.
Parce que, tu sais, il apprend des stratégies pour aider la personne autiste, puis ça lui permet de l'appliquer avec d'autres employés qui pourraient aussi en bénéficier.
Oui, bien, on va faire une courte pause, Marc, puis j'aimerais ça qu'on parle des différents modules parce que pour avoir regardé les vidéos, là, ce que vous me dites me sonne des cloches.
OK,
on prend une courte pause. Retour au balado Inclusion Inc. Chantal Doré avec notre invité Marc Lenovaz, qui est chercheur au Centre de recherche Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc, on met la table, là, on parle un peu des différentes formes de manifestation du spectre de l'autisme, et on met la table un peu pour l'application qui a été développée, qui est Mon employé autiste. Et Marc va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on retrouve dans cette application.
Ça, mais l'application contient 5 modules. Donc, chaque module a sa fonction. Le premier module, on évalue les connaissances du gestionnaire envers l'autiste. Donc, c'est simplement un questionnaire de connaissances avec des vrais ou faux. C'est des questions, il y en a une trentaine. Pour voir après ça, ça me donne un pourcentage. Ta connaissance de l'autisme est à 60 %, okay. 70 %.
C'est quoi les questions où les gens répondent souvent le plus à côté de la plaque?
Honnêtement, je vais être transparent avec vous, je ne sais pas encore. On n'a pas encore étudié les résultats. On est en train de faire un projet de recherche qui n'est pas terminé.
D'accord.
Donc, on n'a pas encore regardé lesquels exactement, mais il y en a quelques-unes qui sont quand même difficiles. Par exemple, les différences au niveau moteur qui peuvent être que les gens ne sont pas nécessairement au courant. C'est sûr que les questions comme plus sur la prévalence, les gens sont de plus en plus au courant puis en entendent parler sur les habiletés sociales, mais je pense que c'est plus sur les subtilités que les gens vont avoir des défis.
Oui. Okay. Donc, on mesure un peu notre connaissance dans ce premier module-là. On a notre résultat en ligne. Et le deuxième module est plus... est-ce que c'est les témoignages, le deuxième?
Non, le deuxième module, c'est des vidéos humoristiques qu'on a créées. On nous avait demandé, au fond, d'essayer de rendre l'application la plus engageante possible, dans le sens où... Quand on développe des applications, des vidéos informatifs, on se rend compte assez rapidement que les gens les écoutent pas au complet si c'est trop long.
Ouais.
Puis si c'est seulement informatif, t'sais, parce qu'on va pas nécessairement chercher ici ou viser un conseiller en inclusion puis diversité, où est-ce que lui va prendre le temps de faire une formation, puis c'est son intérêt. T'sais, on vise vraiment les gestionnaires de plancher, ton gestionnaire dans l'usine, ton gestionnaire j'aime bien dire chez Pierre Patate. C'est les gens
moi,
que
si
c'est
je
pas...
vais chez Paul Patate, mais en tout cas.
Mais des gens pour qui le DI ou la diversité puis l'inclusion, c'est peut-être pas leur passion.
Non, puis c'est pas un concept qu'on dissèque. C'est vraiment une réalité face à... OK, je suis face à une situation que je comprends pas. Donc là, je vais aller chercher de l'information.
C'est ça. Donc, on a voulu, pour garder l'attention des gens, on a voulu faire les vidéos avec un côté humoristique. Fait qu'on a un patron qui est un peu niais, qui fait des faux pas, si je peux dire ainsi, avec une personne autiste à sa première journée, ou lors de sa première journée de travail ou ses premières journées, puis à ce moment-là, a réagi puis a éduqué un peu notre patron qui a des difficultés.
Oui, bien, j'ai trouvé ça sympathique. J'ai écouté les vidéos cette semaine. Je me suis demandé justement pourquoi vous aviez mis le personnage du patron dans une posture un peu, bon, vous l'avez dit niais, là, mais... il a l'air plein de bonne volonté, mais effectivement, tu te dis, t'aurais dû t'éduquer avant, là, mais c'était vraiment dans le but d'amener une touche d'humour.
C'est ça. C'est dans un but d'amener une touche d'humour, puis aussi pour pas que les gens aient peur de poser des questions. Parce que malgré ces défis aux gestionnaires, aux patrons, ils posent quand même des bonnes questions, puis je pense qu'on veut encourager. T'sais, quand on n'a pas l'information, moi, j'encourage les gens à poser la question à leur employé. Là, c'est la meilleure façon d'avoir l'information. Fait que ça nous a permis à la fois d'aller chercher l'humour, puis à la fois de montrer que c'est peut-être pas nécessairement mauvais de poser des questions, puis c'est normal qu'on ne se connaît pas tout en commençant. Là, on ne peut pas tout savoir. Là, je prends l'exemple de moi. Moi, je suis un expert en autisme, je suis un psychoéducateur, mais si vous me demanderiez aujourd'hui de vous parler de psychose, pourtant je suis dans le domaine, là, c'est mon travail, je côtoie ça, j'enseigne à l'université, mais pourtant je ne pourrais pas vous parler de psychose, fait que c'est normal qu'on n'a pas toute l'information.
Ouais. Ben, j'ai trouvé aussi que peut-être ça aidait en le personnifiant de cette manière-là, le gestionnaire, que si on se pose les mêmes questions que lui, on se dit, ben, s'il se posait la question, c'est normal que je me la pose aussi, donc ça ouvre la discussion.
J'espère, oui, on espère que ça ouvre l'esprit des gens, puis que ça fait... Puis, je veux dire, même si la personne a plus de questions par la suite, au moins, elle s'est intéressée à la problématique, elle a eu une introduction à certains enjeux qui sont liés, parce qu'on fait une brève introduction de c'est quoi l'autisme. Mm-hmm. Après ça, comment accueillir une personne autiste en milieu de travail, puis quelques petites stratégies si la personne semble avoir des difficultés.
Oui, donc comment on fait pour intégrer une personne... en milieu de travail.
Mais je pense, de un, il faut comprendre que c'est un employé comme les autres. Donc ça, c'est un message qu'on a essayé de passer. Mm-hmm. C'est un employé comme les autres.
Je trouvais ça bien, justement, qu'elle lui disait, ben, comment tu fais d'habitude pour intégrer quelqu'un? Ben, elle dit, je fais ça, ça, ça. Ben, elle dit, t'es bien parti, là.
C'est ça. Puis c'est sûr qu'il faut parler avec la personne, voir est-ce qu'elle a des besoins particuliers ou des caractéristiques particulières qu'on devrait savoir pour pouvoir adapter. Parler de communication avec elle, de voir comment elle préfère qu'on communique, puis d'être vraiment clair, là. Je pense que c'est ça. T'sais. Puis comme je dis, il y a tellement de non-verbal qui se passe dans les milieux de travail, comme on parlait tantôt, des difficultés à le décoder, que je pense que c'est quelque chose qu'il faut être très prudent.
Oui. Ben c'est, en fait, je trouve que c'est des discussions qu'on n'a pas toujours, parce que si on inclut une personne, c'est rare qu'on va lui dire « Comment veux-tu que je communique avec toi? Je sais pas, moi, est-ce que c'est plus clair pour toi si je t'appelle ou si je t'écris sur Teams ou si je t'envoie un courriel? » On dirait qu'on prend pas le temps de baliser ça, et pourtant, moi, je travaille en communication, on gagnerait beaucoup nos équipes à dire de quelle manière on va communiquer ensemble, de quelle manière on va collaborer. C'est comme si, là, la personne dans le spectre de l'autisme nous amène un peu à discuter de choses qu'on devrait toujours discuter.
Absolument. Puis pour ça, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. Moi, j'ai l'impression que ça fait des gestionnaires des meilleurs gestionnaires après, parce qu'ils comprennent des choses, ils comprennent qu'on est tous différents, là. On a tous des modes de communication différents. Je veux dire, on est tous un peu divergents, là. C'est les uns des autres. On a toutes nos préférences. Puis je pense que ça devrait être fait pas seulement avec la personne autiste, là.
Oui. Quand on parle vraiment peut-être de stratégie spécifique, est-ce que c'est possible de nous donner des exemples, mettons des besoins particuliers? Spontanément, je vais penser au bruit, là. Est-ce que ça pourrait être... est-ce que mon bureau peut être dans une zone particulière où je fais plus de télétravail?
On demande à la personne, parce que c'est un mythe que toutes les personnes autistes sont dérangées par le bruit. Il y a une plus grande prévalence, on s'entend, là, mais c'est pas tout le monde. Fait qu'on lui demande, on lui dit, écoute-toi, c'est quel environnement? Est-ce qu'il faut que ce soit plus silencieux? Est-ce que t'es mieux quand c'est plus silencieux? Est-ce que ça dérange quand il y a du monde? Fait qu'évidemment, mettre la personne dans un endroit plus calme, mais pas nécessairement en retrait, parce que, tu sais, on veut pas non plus l'exclure. On veut que les gens y parlent, on veut qu'il y ait des interactions. Fait que c'est de trouver des solutions avec eux. Peut-être que ça peut être un casque qui annule le bruit, ou qui masque, je cherchais le mot, qui masque le bruit.
Oui.
Tu sais, des stratégies comme ça. Bien sûr que moi, la stratégie, puis je me répète depuis tantôt, mais c'est vraiment consigne claire, précise. Je veux dire, je pense que on gagne à faire ça avec tous les gens qu'on travaille, tu sais, fait avoir des attentes claires, puis les dire clairement, puis les exprimer de différentes façons, fait que peut-être qu'on peut l'expliquer oralement, donner une liste
Donc, un checklist, par exemple, de choses à faire.
C'est ça, qui peuvent aider, mais ça varie. Puis c'est un spec, là. Fait que, mm-hmm. Ça ne sera pas la même chose si tu intègres un prof d'université.
Tu y arrives avec un checklist.
C'est ça.
Que si laver tes mains quand tu reviens des toilettes, ça serait un peu...
Versus quelqu'un qui prépare des sandwichs au Saint-Hubert. T'sais, là, peut-être qu'il va y avoir une différence dans l'intégration qu'on fait. Fait que c'est pour ça que c'est aussi difficile de développer des applications comme ça, parce qu'on ne veut pas tomber... Mm. Trop dans la caricature.
Oui, oui.
On veut donner le plus d'informations possible.
C'est pour ça que vous ramenez le rôle face à poser la question pour connaître la spécificité.
C'est ça.
Parce que là, on parle d'autisme, mais vous êtes spécialiste aussi en déficience intellectuelle. La compagnie ATI où j'ai travaillé, il y avait une jeune fille avec une trisomie 21 qui s'occupait du café puis de diverses tâches routinières. Et je me rappelle qu'à un moment donné, elle a déchiqueté le papier, elle l'a laissé là. Puis là, quelqu'un a dit « Pourquoi tu le laisses là? » Ben, elle dit « Parce que j'ai fini la tâche. » Puis là, il a fallu demander à la personne qui avait fait les consignes de ramasser le papier une fois, alors que pour les autres, ça semblait évident.
Oui, puis c'est des situations qui peuvent se produire exactement si on n'est pas assez clair.
Ouais.
Des fois, on va remarquer des failles dans notre propre gestion. Puis ça, je dis, ça permet de nous améliorer. Là, moi, des fois, je dis des choses, puis je suis comme « Oh mon Dieu, finalement, j'ai pas été clair. » J'aurais pu être plus explicite. T'sais. Des fois, on va me dire, par exemple, un employé, quand il n'y a plus rien à faire, quand il a fini une tâche, il arrête de travailler, mais c'est parce qu'on n'a pas dit que quand tu as fini une tâche, tu enchaînes la prochaine, puis il faut que ça soit clair, c'est quoi la prochaine tâche qu'il faut enchaîner. Fait que ça, c'est une autre stratégie, c'est d'utiliser des séquences pour aider la personne à vraiment savoir ce qu'elle a à faire. Là.
Est-ce que jusqu'à quel point ça demande une adaptation? Parce que là, de dire que les gens perdaient leur emploi, est-ce que c'est parce qu'ils faisaient des grosses erreurs ou c'était juste trop difficile pour le gestionnaire parce que ça l'amenait à devoir se poser trop de questions? Ou...
Mais encore une fois, moi, je vais dire que c'est des incompréhensions qu'il va avoir eu. Genre, je pense que mon employé n'aime pas son emploi parce qu'il sourit jamais. Tu sais, donc, une incompréhension, mais la personne aimait dans son emploi, mais c'est juste qu'elle avait de la difficulté avec le non-verbal, fait qu'elle l'utilisait pas. Ou la personne a fait un comportement qui a été jugé inapproprié, mais au fond, il n'y avait aucune mauvaise intention. C'est une particularité. Fait que je pense pas que c'est beaucoup plus de travail encadrer une personne autiste. Je pense pas que c'est au niveau de... C'est beaucoup de travail. C'est au niveau des...
dialogues, finalement.
C'est le dialogue, les incompréhensions qui surviennent. Parce qu'une fois que la personne est bien encadrée, moi, je fais partie de ceux que je pense... C'est pas tant de travail plus que ça. Puis la plupart du temps, l'investissement qu'on met pour cet employé-là, il bénéficie aux autres. Fait qu'au fond, à la fin de la journée, moi, je crois fermement que c'est pas... Oui, il faut faire des adaptations, mais je pense que ça fait bénéficier l'entreprise dans ce sens-là.
Ben voilà une belle conclusion. J'invite les gens, on tape mon employé autiste, on peut en savoir plus sur l'appli, sinon on peut la télécharger simplement. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous. C'est ainsi que se conclut notre épisode d'Inclusion Inc. On se retrouve prochainement. Au revoir.